إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، كما لا يخفى على أدناكم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم لنحقق العبودية الخالصة له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى حسب تحقيق هذه العبودية تكون درجات العباد متفاوتة، وتكون منازلهم عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى له حالتان: حالة السراء وحالة ضراء. فكما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته في حال الأمن والقوة والغنى والصحة والنعمة، فإنه جل وعلا أمرنا بعبادته كذلك في حال فقد الغنى وفي حال الضعف والمرض وجميع أنواع الابتلاءات. فإن الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك الوضوء بالماء البارد لكن في شدة البرد عبادة لله سبحانه وتعالى. إلا أن هناك فرقا عظيما بين العبادتين، والشأن كل شأن عباد الله في تحقيق العبودية لله عز وجل عند المكاره. وعلى حسب تحقيق هذه العبادة عند المكاره والابتلاءات والمشاق تكون درجات العباد عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان حقا محققا للعبودية لله في الحالتين، في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الأمن والعافية والابتلاء والصعوبة، فإن هؤلاء الناس هم الذين يشملهم قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يكفي عباده المؤمنين المحققين العبودية له سبحانه وتعالى، فلا يحتاجون إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، ومن كفاه الله أغناه جل وعلا. عباد الله، لقد علم إبليس أن الله سبحانه وتعالى لن يسلطه على عباده المؤمنين. قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم ذلك إبليس حلف بالله عز وجل أن يضل عباده إلا الذين أخلصهم أي اصطفاهم واختارهم فجعلهم تحت كنفه وحفظه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إخبارا عما قال إبليس اللعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. انظروا عباد الله وتأملوا حال إبليس وقد علم أن فريقا من المؤمنين اختارهم الله عز وجل فحفظهم من كيده ومكره وإضلاله، وهم الذين حققوا العبودية فعبدوا الله جل وعلا ووحدوه في السراء بالشكر والضراء بالصبر، وثبتوا على عبودية الله وعلى اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فنالوا من الكفاية لله عز وجل ما نالوا إكراما من الله سبحانه وتعالى لهم. أيها المسلمون، حتى وإن كان العبد محققا غاية التحقيق العبودية لله جل وعلا، فإنه لا بد له من أحد أمور ثلاثة لا بد منها، ألا وهي الغضب والشهوة والغفلة. فإن الإنسان لكونه بشرا ضعيفا لا بد أن يقع إما في الغفلة وإما في الشهوة وإما في الغضب، ومن هنا يترصده إبليس وينتظر أن يفتح له أحد هذه الأبواب الثلاثة حتى يضل الإنسان في ظنه ويهلكه في ظنه. فإذا غضب الإنسان أو اشتهى أو غفل لحظة في حياته فإن إبليس يضله في هذه اللحظة فيظن أنه قد أهلكه وأفسده فصار هالكا عند الله جل وعلا، إلا أن رحمة الله وفضله وكرمه وراء ذلك كله، وهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فإذا أراد الله بعبده المحقق للعبودية خيرا فإنه يفتح له بعد وقوعه في هذه الغفلة، يفتح له أبوابا من التوبة والانكسار والافتقار وأعمال صالحات كثيرة، حتى تكون تلك السيئة التي أوقعه إبليس فيها سبب دخوله الجنة. ومن هنا يصدق قول من قال من السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، وإن العبد ليعمل الحسنة يدخل بها النار. لما سئل قال في جوابه إن العبد ليعمل بالذنب فلا يزال نصب عينيه لا يزال نادما باكيا وجلا خائفا من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الذنب له أنفع من طاعات كثيرة ويدخل به الجنة. وإن العبد ليعمل بالحسنة لا يزال يمن بها على الله سبحانه وتعالى حتى يرى أنه قد أصبح كذا وكذا فيعجب بنفسه، ثم يهلكه الكبر والعجب، وهذا هو الخذلان. عباد الله، وقد أجمع العارفون بالله سبحانه وتعالى أن التوفيق كل التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان كل الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. عباد الله، إن المحقق للعبودية لله لرجل عظيم ولرجل حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في سيره إلى الله عز وجل بين أمرين: أحدهما مشاهدة نعم الله عليه، ثانيهما مشاهدة عيوب نفسه، وهذا الذي جاء في دعاء عظيم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتلاحظون في هذا الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي، وهذا هو مشاهدة نعم الله على الإنسان، وأبوء بذنبي، وهذا هو مشاهدة عيوب نفس الإنسان. وذلك لأن الإنسان إذا شاهد نعم الله عليه أحب الله جل وعلا، وإذا شاهد عيوب نفسه عليه أذل نفسه عند الله جل وعلا، فلم يأتيه الكبر. وإن العبادة الحقيقية والعبودية الحقيقية لا هي مبنية على هذين الأمرين اللذين هما الحب الكامل والذل الكامل. وإننا إن شئنا لأطلنا الكلام، ولكن الوقت لا يسمح لنا بذلك. وإن المقصود هو أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا نتعلق إلا بالله الواحد الأحد، ولا نعبد ولا ندعو ولا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى. والله الموفق لكل خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، vous n'êtes pas sans savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé à partir de rien afin de concrétiser l'adoration et d'être ses serviteurs. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit: exalté soit-il, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est donc pour concrétiser cette servitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Mais le degré et la place qu'occupent les gens chez Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs diffèrent et varient en fonction de l'application de cette servitude pour laquelle les gens ont été créés. Ainsi, les gens ne sont pas égaux, ils ne sont pas pareils. Certains sont bien plus proches d'Allah que d'autres, pendant que certains sont très loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits ne viennent que d'Allah. La guidée ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que cette adoration, cette servitude pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés, se manifeste dans deux états que sont les suivants. La servitude ou l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, et la servitude ou l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la difficulté. En effet, faire ces ablutions, qui est une adoration pour Allah, avec de l'eau fraîche, lors de la chaleur intense, est une adoration qui rapproche d'Allah, mais elle est différente des ablutions qui sont faites avec de l'eau fraîche alors que le froid se fait très rude et intense. Et la plupart des gens ne manifestent que l'adoration lors de l'aisance, tout en délaissant et en ayant des manquements dans la concrétisation de l'adoration lors de la difficulté, alors que c'est avec cette dernière que le serviteur prouve à Allah subhanahu wa ta'ala sa véracité, sa sincérité. C'est avec celle-ci aussi que ces degrés sont élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux parmi ses serviteurs qui ont su l'adorer dans l'aisance tout comme dans la difficulté, dans la richesse tout comme dans la pauvreté, dans la faiblesse tout comme dans la force, dans le besoin tout comme dans la suffisance, dans l'épreuve tout comme dans le salut, sont ceux qui seront épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala de l'emprise de Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens rapproché du verset, « N'est-ce pas qu'Allah suffit à ses serviteurs ?» Ceux qui ont su concrétiser cette servitude pour laquelle ils ont été créés, n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur est suffisant de sorte à ce qu'il leur donne ce qu'ils lui ont demandé, de ce qu'il les couvre de sa miséricorde, les guide, leur facilite toutes leurs entreprises. Allah te suffit, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le sens rapproché du verset, en s'adressant à Iblis, son ennemi, « Certes, mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise sur eux. » Allah Azza wa Jal parle donc à Iblis en lui disant qu'il ne pourra avoir aucune emprise sur ses serviteurs, qui sont ceux qui ont concrétisé cette servitude pour laquelle ils ont été créés, tant bien dans l'aisance que dans la difficulté. Ainsi, ils ont gagné la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Iblis a su de façon sûre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a décidé de protéger ses serviteurs, il a dit ce que nous dit Allah dans le sens rapproché du verset, que Iblis a dit, « Je jure par ta puissance que j'égarerai tous tes serviteurs, que j'égarerai tous tes serviteurs, à l'exception de ceux que tu auras élus parmi tes serviteurs, ceux qui ont su t'adorer et concrétiser l'adoration et la servitude dans l'aisance, dans la difficulté, dans la pauvreté et la richesse, dans la force et la faiblesse, dans le besoin et la suffisance. Ils ont su être reconnaissants quand tu les comblais de tes bienfaits, endurants lorsque par ta sagesse tu les éprouvais. Je sais que je n'aurai aucune emprise sur eux. » Et dans le sens rapproché de l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et Iblis a réalisé la pensée qu'il s'était faite d'eux. Iblis s'était faite une pensée des serviteurs d'Allah, qui était le fait qu'il allait tous les égarer. Il a su réaliser cette idée première qu'il s'était faite lorsqu'il a vu l'homme et sa faiblesse. Mais Allah Azza wa Jal nous dit ensuite, dans le sens rapproché, ils l'ont donc suivi, à l'exception d'une partie parmi les croyants. Et il n'a aucune emprise sur eux, si ce n'est afin de voir parmi eux qui sont les croyants en au-delà et qui sont ceux habités par le doute. Et ton Seigneur préserve toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne donc que la manière de se voir protégé et préservé de Iblis, de sa ruse, de ses égarements, de ses insufflations, du mal auquel il nous appelle, c'est l'adoration à Allah, c'est la servitude pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus elle est pratiquée, plus cette personne reçoit d'Allah tabaraka wa ta'ala sa protection, subhanahu wa ta'ala. Mais sachez que bien que le serviteur pratique de manière stricte et méticuleuse cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, il reste un humain, l'humain qui est faible et qui ne pourra pas éviter l'une des trois choses suivantes, un moment de colère, un moment de désir, un moment d'insouciance. C'est alors que Iblis est aux aguets et il attend que le serviteur qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala tombe dans l'une de ces trois choses. Et voilà une porte qui s'ouvre à lui afin de faire égarer cette personne. Il arrive alors à l'induire en erreur, à essayer de l'égarer, pensant l'avoir détruit. Mais les bienfaits d'Allah et la miséricorde d'Allah sont derrière tout cela. Car quand Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien pour son serviteur qu'il a choisi, il lui ouvre des portes du repentir, de l'avilissement devant Allah, du regret, de la demande de pardon qui ont découlé du péché qu'il a commis lors de ce moment d'insouciance, de désir ou de colère. Des bonnes actions vont en découler à cause du regret qui habite son cœur. à un point tel que ce péché qu'il avait commis devient la cause de son entrée au paradis et du pardon d'Allah Azza wa Jal pour lui. Au point où Iblis finit par se dire « J'aurais finalement dû le laisser obéir à Allah comme il faisait avant, car maintenant il est devenu meilleur qu'il ne l'était avant. » Et ainsi, l'on comprend la parole de certains des pieux prédécesseurs qui connaissent Allah tabaraka wa ta'ala avec ses noms et attributs lorsqu'ils dirent « Il se peut que le serviteur commette un péché qui le fasse entrer au paradis et il se peut que le serviteur fasse une bonne action qui le fasse entrer en enfer. » Il a été interrogé et il répondit « En effet, le serviteur qui fait un péché qui ne cesse de denter son cœur et son esprit, il est bouleversé par le regret qui habite son cœur, au point de faire beaucoup de bonnes actions pour se corriger et se rattraper. Et alors, ce péché est devenu meilleur pour lui que beaucoup de bonnes actions. Et il est la cause de son entrée au paradis. Tout comme il se peut que la personne fasse une bonne action à cause de laquelle elle est trompée, pensant être méritante de ce degré chez Allah. Elle s'enorgueille alors et elle voit sa personne comme étant ce qu'elle n'est pas en réalité. Elle est alors détruite par l'orgueil et elle se paye cette bonne action à causer pour elle l'entrée dans le feu. Et celui qui avance vers Allah dans la servitude et l'adoration le fait entre deux choses essentielles. La première, c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Constamment reconnaître qu'Allah nous a comblés de ses bienfaits. Et la seconde, c'est la reconnaissance de nos péchés qui sont très nombreux et de nos défauts. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la meilleure façon de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire « Oh Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté toi, seul. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je respecte mes engagements avec toi et ta promesse autant que possible. Je reconnais les bienfaits par lesquels tu m'as comblé et je reconnais mes fautes. Pardonne-moi donc mes péchés. Seul toi pardonne les péchés. » L'on remarque dans cette invocation qui est la meilleure façon de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance des péchés et la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Ceci, car la reconnaissance des bienfaits d'Allah fait naître dans le cœur l'amour pour Allah qui nous a comblés de tous ses bienfaits. De même, la reconnaissance des péchés commis fait naître dans le cœur l'avilissement et la servitude à Allah, le fait de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration justement pour laquelle nous sommes créés est basée sur ces deux choses, sur l'amour pour Allah azza wa jal et sur l'humiliation que l'on doit lui manifester. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق العبودية الخالصة له وأن يشرح صدورنا ويشفي قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه في صحة وإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لتحقيق العبودية في السراء والضراء. اللهم اجعلنا ممن قد نال كفايتك التامة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.